ce quelque chose en moi qui dit non. Il a suffi d'une étincelle, oui, juste une étincelle pour raviver en moi une profonde tristesse teintée d'une colère non dissimulée. Quelques minutes devant une émission de télévision et me voilà emportée par un tourbillon d'émotions. À cela, vous rajoutez un soupçon de culpabilité et une petite pincée d'auto-jugement négatif, ça donne du piquant. Moi qui croyais que toutes mes demandes en pardon vis-à-vis de cette agression sexuelle vécue à l'adolescence m'avaient libérée, il n'en est rien. Ou pour être un peu plus nuancé, pas totalement. Alors, cela signifie-t-il que je me suis menti à moi-même, que je me suis laissé croire que la magie du pardon avait opéré, et je me sens complètement désappointée? Qu'est-ce qui m'a échappé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourtant, c'est avec une indéfectible foi et un profond amour que j'ai adressé diverses demandes en pardon à cet homme, aux hommes, ceux qui ont partagé ma vie, ceux qui ne la partageront jamais, mais qui représentent la gente masculine, à l'homme qui vit à mes côtés et me soutient depuis 20 ans déjà, au premier homme de ma vie, mon père, au côté masculin en moi, puis à ma mère, à cette adolescente pleine d'insouciance, de sincérité et de joie que j'étais, à la vie, au divin. À ce moment-là, un questionnement incessant s'empare de moi et je me dis que je manque de congruence. Encore une petite dose de piquant. Comment puis-je animer des cercles de pardon et, en un quart de seconde, vivre un tsunami émotionnel alors que je croyais le pardon bien installé douillettement, au chaud, au fond de mon cœur? Je me dis, il y a un loup. Bon, ça suffit maintenant, où es-tu? Montre le bout de ton nez, loup, montre-toi. Il faut qu'il sorte du bois. Cette fois-ci, on dirait que c'est lui qui a peur. Et je ne tiens pas à l'effaroucher. Il va falloir que j'use de délicatesse. Mon parcours professionnel va m'être d'un grand secours dans cette épreuve. Sachant que tout ce que je vis prend naissance en moi et non à l'extérieur de moi, je décide donc d'aller voir ce qui se manifeste à l'intérieur de moi. De façon spontanée, lorsque nous sommes bouleversés, en proie à diverses émotions profondes, nous avons tendance à croire que si nous comprenons intellectuellement ce que nous vivons, alors nous aurons la solution pour y remédier. Alors, en bon élève, nous accaparons notre mental et ne lui laissant aucun répit jour et nuit. Et le voilà ainsi condamné aux travaux forcés. Il cherche, il s'empare des faits, les analyse, raisonne, interprète, juge, élabore des stratégies sans cesse, les multitâche. Mais son rôle étant de nous protéger de la souffrance, de l'échec, des manques qui peuvent subvenir dans notre vie, il nous avertit en nous suggérant d'éviter l'expérience qui se présente à nous. Ainsi, dans le but de nous éviter de souffrir, il nous envoie un signal de danger. Le mental s'empare des informations générées par les sensations déstabilisantes que nous ressentons. Et l'émotion se transforme par l'interprétation que nous en faisons, nous basant sur des expériences vécues antérieurement. L'interprétation que fait le mental de l'émotion vécue devient alors la source de la présence de milliers de peurs blotties au fond de nous. Par conséquent, il ne souhaite pas que nous rencontrions le loup. Il nous garde prisonniers de nos peurs en recherchant des souvenirs, des mémoires où nous, ou quelqu'un qui nous est cher, a vécu des expériences similaires et malheureuses. Et alors là, le mental va nous fournir des preuves et des justifications multiples afin que nous ne nous mettions pas au contact de ce qui se présente à nous, ici et maintenant, à savoir le loup. Tout changement est perçu par lui comme une menace. Alors, bon élève, oui, obéissant pas toujours, je décide donc de ne pas écouter mon mental et d'aller écouter mon cœur. Car il s'agit bien de cœur depuis le début de cette aventure. Auto-accompagnement en pleine conscience. L'auto-accompagnement en pleine conscience est une méthode à laquelle je me suis formée avec Pascal Astier et qui permet de déjouer les ruses du mental. Vous établissez en fait un lien unique avec ce qui vous anime, basé sur des qualités de présence, ce qui vous permet d'entrer en relation avec soi, avec la partie la plus intime de soi. Vous accédez ainsi à un endroit de vous qui détient une connaissance profonde de la situation dans votre corps. Vous savez, le mental peut vous mentir, mais pas votre corps. Votre corps connaît tout de vous, il est votre meilleur allié et vous délivre sa sagesse. Et ce processus permet à votre mental de ne pas intervenir. En vous accordant cette pause, vous vous offrez la possibilité de découvrir ce qui en vous est souffrant et d'établir ainsi un contact bienveillant, plein de compassion pour cette partie de vous qui souffre. Les prises de conscience qui en découlent nous permettent de poser un regard différent sur ce qui est et d'être en paix à des endroits où nous ne l'étions pas encore totalement. La séance d'auto-accompagnement nous invite à accueillir ce qui est présent, quelle qu'en soit la nature, agréable, désagréable, souffrante, neutre, et à laisser s'exprimer ce qui est vivant en nous, afin de mettre en lumière ce qui semble aujourd'hui confus ou bloqué. Elle clarifie ce qui est ressenti par le fait de porter une attention pleinement disponible, sans jugement, curieuse de découvrir ce quelque chose dont nous faisons directement l'expérience ici et maintenant et qui n'est pas encore mis en mots. Nous accédons à la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de soi, une compréhension intuitive, émotionnel, de ce qui est juste à l'intérieur de soi et non pas une compréhension intellectuelle faite de concepts ou d'interprétations hasardeuses. Pour résumer, nous avons mis notre mental en congé et nous mettons l'accent sur nos ressentis. Chacun de nos ressentis a une existence propre et nous entretenons une relation intérieure unique avec chacun d'eux. Nous les invitons à se manifester, à monter à notre conscience. C'est un processus où l'on est présent à quelque chose en nous que nous expérimentons et qui demande toute notre attention. À cet instant, nous sommes en présence avec ce qui est et nous lui offrons une qualité de présence basée sur l'accueil inconditionnel, l'écoute, le non-jugement, la curiosité, l'espace, comme un véritable ami le ferait avec vous, lorsque vous venez lui faire part de ce que vous vivez de souffrant. Une séance d'auto-accompagnement se déroule en 4 étapes. Entrer en soi, établir le contact, approfondir le contact et ressortir. Alors, assise confortablement sur une chaise, je commence par faire un ancrage. Entrer en soi. Cette étape permet d'amener son attention dans son corps, car c'est grâce à lui que nous pourrons établir un contact avec ce quelque chose en soi qui se manifeste. Je prends le temps pour devenir consciente de l'extérieur de mon corps, de mes bras, de mes mains posées sur mes cuisses, tout en étant également consciente de mes jambes et de mes pieds posés au sol. Consciente du contact de mon corps avec le siège sur lequel je suis assise, je ressens le contact de mes fessiers, de mes cuisses, le contact de mon dos avec le dossier du siège. Je ressens tout mon corps qui se dépose sur le siège. J'ai conscience de l'espace qu'occupe mon corps. Conscience de mon corps dans son environnement, dans cette pièce, ici et maintenant. Conscience de tout ce qui m'entoure, des objets autour de moi, de la luminosité dans cette pièce. Conscience des différents sons qui interviennent dans le silence de la pièce. Puis je laisse maintenant mon attention se porter vers l'intérieur, dans toutes les parties internes de mon corps, la partie qui englobe ma gorge, ma poitrine, mon estomac et la région de mon ventre. Je m'invite à me déposer en douceur à l'intérieur, consciente de ma respiration. J'inspire, j'expire et je demande, qu'est-ce qui réclame mon attention en ce moment même, ici et maintenant? Qu'est-ce qui demande à être reconnu et entendu? Établir le contact. À ce moment du processus, je ne cherche rien. Je ne force rien et je me mets simplement à l'écoute de tout ce qui se présente à moi. Que ce soit à travers mes sensations corporelles, mais ce peut être par le biais d'une image, d'un souvenir, d'un son, d'un mot. J'offre cette qualité d'attention. J'entre en présence. Je constate ce qui est et je reconnais simplement que quelque chose est là, sans chercher à l'analyser, à l'étiqueter. Je remarque que quelque chose est présent. Et j'établis une relation intérieure avec quelque chose dont je suis consciente. Je ressens quelque chose au niveau de mon bas-ventre, qui est comme une barre de fer. Et ce quelque chose dans mon ventre est froid, lourd. Ça me pèse. Cette étape nous demande de rester ouvert à tout ce qui est, peu importe ce que c'est, et ce, afin de l'accueillir, uniquement l'accueillir. Et je prends un temps pour décrire la sensation et ressentir comment elle vit dans mon corps après l'avoir identifiée. Puis je ressens comment la sensation voudrait que je sois avec elle. Et je lui dis bonjour. Je regarde si je souhaite dire bonjour à la sensation. Je lui dis, je sais que tu es là. Je te reconnais. Je te ressens dans mon ventre. Je te dis, bonjour. Sois la bienvenue. approfondir le contact. Ce quelque chose en nous cherche à nous parler, à nous faire prendre conscience de comment cela se sent. À ce moment-là, des symboles peuvent émerger sous forme de mots, d'expressions, d'images, de sons, de gestes même. Il faut prendre le temps de laisser monter à sa conscience tout ce qui doit l'être. Alors je prends un temps pour m'asseoir avec ce quelque chose, lui tenir compagnie, être avec, ressentir dans mon corps, laisser émerger les symboles, ressentir comment ça se sent de son point de vue, ressentir ses émotions, son humeur, et lui faire savoir que je l'entends. Ça me dit que c'est en colère, que je n'avais pas le droit de la faire taire. Je sens, ça a envie d'hurler, ça hurle. Pourquoi ? Pourquoi je ne lui ai pas accordé de temps alors que je l'ai fait pour les autres ? C'est tellement en colère. Ça se sent tellement triste, tellement délaissé. Il est vrai que j'ai gardé le silence, pas un mot, pas une attitude qui pourrait trahir ce que j'ai vécu. Continuer coûte que coûte, quel qu'en soit le prix à payer. Ne rien dire, serrer les dents, ravaler ses larmes, des années durant. Protéger les autres, protéger mes parents, cela va leur causer tellement de peine, je suis en incapacité de le supporter. À ce moment du processus d'auto-accompagnement, je ressens une telle compassion pour cette partie en souffrance. Et je lui fais savoir que je suis là. Je l'entends me dire, « Moi, personne n'a pris soin de moi. Tu m'as imposé le silence. » Tellement d'années, tu m'as imposé le silence. Non. Oh, je ressens comment c'est pour toi. J'entends ton nom. J'entends ta colère. Je sens à quel point tu t'es senti délaissé. La présence ne cherche pas à argumenter, à se justifier, à réparer ou à résoudre quoi que ce soit. Elle est juste là, en tant que compagnon. Je reste en présence avec ce qui est. Et là, une image apparaît à ma conscience. Je vois une petite fille habillée d'une robe blanche, recroquevillée sur elle-même dans un espace sombre. Alors je reste en lien avec cette image et après quelques instants, je lui demande « Comment voudrais-tu que je sois ici et maintenant avec toi ? De quoi as-tu besoin ?» Pas de réponse, pas de sensation. Mais d'ailleurs, cette question ne demande aucune réponse. Il suffit juste d'être là, en présence. Alors je lui dis, regarde, je reste là, juste là, assise à tes côtés. Je suis là rien que pour toi. Prends tout le temps qu'il t'est nécessaire. Et je continue d'être en présence pour elle et de lui accorder toute mon attention, une attention bienveillante, pleine de compassion pour cette petite fille qui a tant souffert. Puis je ressens sa présence entre mes cuisses. Elle est là, blottie contre moi, son petit corps fragile contre mon ventre. Et je ressens sa chaleur, sa vulnérabilité. Et là, je me dis qu'il est bon d'être à son contact. Elle m'a tellement manqué. 30 ans, 30 longues années. Alors je reste ainsi avec elle et elle s'apaise, se console. Un espace se crée à l'intérieur de moi. Lorsqu'au-delà du mental, nous sommes en contact avec cette intelligence sensible en nous, tout peut émerger au sein même du silence intérieur. Accepter, c'est reconnaître ce qui en nous résiste, c'est être en lien avec notre corps de souffrance et l'accueillir dans toutes ses dimensions. Ne rien fuir, permettre d'être là, lui donner toute la place qui lui est nécessaire pour se sentir entendu, reconnu. Et ainsi ce quelque chose en nous cesse de se battre. Un espace de liberté se crée empli de paix. Et la paix est ce qui reste lorsque l'on permet à tout ce qui s'exprime en nous d'être ce que c'est, sans rien vouloir changer. Ressortir de la séance. Je prends le temps de ressentir à nouveau dans mon corps les changements qui ont eu lieu, ce qui se sent désormais ouvert et qui s'est relâché. Et je lui fais savoir que je serai toujours là pour elle, pour l'accueillir si elle a besoin. Je remercie tout ce qui s'est manifesté à ma conscience pendant cette séance et je prends le temps d'apprécier le processus qui a eu lieu dans mon corps. Ensuite, je prends un temps pour ramener ma conscience à l'extérieur. Je ressens mes mains, mes pieds, les différentes parties de mon corps. Je prends conscience de la pièce dans laquelle je me trouve. Et je laisse mes yeux s'ouvrir naturellement, doucement. À ce moment-là, je positionne mes mains sur mon chakra du cœur et je ressens toute la gratitude qui coule en son sein. Je reste ainsi le temps de revenir complètement au monde extérieur et je reste en lien avec ce qui est. Malgré mes différentes approches pour guérir cette agression, il restait en moi quelque chose de souffrant qui, depuis 30 ans, disait non et dont le cri restait sourd. Je n'avais pas nié ma souffrance, mais j'avais oublié ce quelque chose en moi qui souhaitait s'exprimer. Et ce jour-là, devant ma télévision, elle avait cherché à le faire. Non, 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 je ne manquais pas de congruence. Je ne me mentais pas. Et oui, toutes mes demandes en pardon n'étaient pas restées vaines. Ce n'était pas mon être tout entier qui disait non, mais uniquement ce quelque chose en moi qui demandait de la reconnaissance. Et j'avais seulement eu peur de me mettre au contact de ce quelque chose. Tellement peur de revivre de douloureux souvenirs que j'avais été jusqu'à nier son existence. Mais ce quelque chose n'était pas non plus ce souvenir. Et c'est là toute la magie du processus d'auto-accompagnement, car il vous conduit à une réelle désidentification. Vous n'êtes plus identifié à ce qui souffre en vous. Le ressenti est approché comme s'il avait lui-même une existence propre. Et ainsi un changement profond peut intervenir. L'approche du pardon transmise par Olivier avait porté ses fruits à bien des égards, mais Il me restait à exposer, à la lumière de ma présence consciente, ce quelque chose qui était resté tapis dans l'ombre, et lui offrir à mon tour ce que le pardon avait fait émerger de meilleur en moi, l'amour. L'entourer de mon amour, de ma bienveillance, lui tenir compagnie pour qu'elle se sente vraiment écoutée, sécurisée, et qu'elle puisse enfin trouver la paix. J'avais mis de la lumière pour que ce quelque chose en moi puisse trouver le chemin de mon cœur et s'y blottir. Je te demande pardon pour tous mes silences. Je te demande pardon pour toutes mes incompréhensions. Et je te demande pardon pour mon manque de présence. Peut-être qu'à l'écoute de ce passage, vous vous demandez pourquoi j'y ai associé la technique d'auto-accompagnement en pleine conscience. La raison principale découle directement de l'éducation que j'ai reçue lors de mes années d'école et qui rejoint la philosophie d'Olivier Clerc. Enfant, je fréquentais l'école Freinet, dont la pédagogie reposait en partie sur les fondements de l'enseignement Montessori. L'un des points essentiels est d'encourager l'autonomie et l'initiative chez l'enfant, ce qui favorise d'ailleurs à terme sa confiance et sa capacité d'adaptation. Adolphe Ferrière, pédagogue suisse de la méthode Freinet, disait, je le cite, « On ne doit pas agir sur l'enfant, mais inciter l'enfant à agir. » Les protagonistes de cette méthode d'éducation dite ouverte répondaient à l'attitude naturelle de l'enfant qui se résume par « Aidez-moi à faire seul ». Notre esprit critique était toujours sollicité ainsi que notre créativité, et l'acquisition des connaissances se faisait par l'expérience. Nous étions également libres de nous exprimer. Alors vous imaginez quelle fut ma déconvenue lorsque je réintégrais le système scolaire traditionnel en classe de 6e qui ne laissait aucune place à ce genre de considération. Selon Freinet, l'enfant apprend par tâtonnement expérimental. Il s'agit de laisser les enfants émettre leurs propres hypothèses, faire leurs propres découvertes, éventuellement constater et admettre leurs échecs, mais aussi parvenir à de belles réussites dont ils peuvent se sentir les véritables auteurs. Les résultats en sont une motivation très forte, une implication immédiate de chaque enfant, qui acquiert ainsi confiance en lui et en ses possibilités de progresser par lui-même. L'intérêt réside aussi dans le fait qu'il est inutile d'apprendre par cœur quelque chose que l'on a découvert par le tâtonnement expérimental. On s'en souvient sans effort et l'on peut l'adapter à ses propres besoins et n'en conserver que le meilleur. Olivier Clerc utilise la métaphore de la nutrition et de la pomme pour exprimer cette même idée et cette même réalité. Afin de ne pas se limiter à recevoir un enseignement et d'en restituer son contenu tel quel, il nous invite à prendre conscience de la nécessité de croquer dans la pomme, d'en briser sa forme en la mâchant, afin d'en extraire sa quintessence. Souvent, on ne s'autorise pas pareille attitude, car on ne nous apprend pas à nous approprier pleinement un sujet, en se faisant les dents dessus, et à en faire quelque chose qui devienne nôtre, quelque chose qui nous appartienne. Il est donc indispensable par la suite de rejeter certains éléments qui nous ont été transmis à travers cet enseignement et ces éléments qui ne nous correspondent pas. Cela s'apparente au travail d'assimilation du corps. Comme des enseignements qui nous sont donnés, il faut se nourrir de la pomme, croquer dedans, la mâcher, la décortiquer, en extraire le jus. La vie nécessaire à notre propre existence et aussi rejeter ce qui n'appartient pas à notre structure. Et nous devons nous accorder cette liberté de briser la forme de la pomme, de l'enseignement, pour en libérer le contenu qui nous correspond, puis rejeter le reste, afin de s'en enrichir. Et cela n'est pas un manque de respect par rapport à l'enseignement reçu. C'est une étape indispensable pour l'évolution de chacun d'entre nous. Voir la nutrition comme une métaphore de la manière dont on assimile les choses, pas seulement dans le corps physique, mais également intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. Telle est la philosophie de l'éducation de Maria Montessori. Bon, je voulais donc m'offrir cet espace de liberté par rapport aux enseignements que j'avais reçus d'Olivier. Laisser ma propre source jaillir. J'ai voulu également vous partager mon expérience et ainsi vous inviter à aborder cette notion du pardon de toutes les façons que vous jugez juste et bonne pour vous. Ne vous censurez pas, ne vous limitez pas, laissez-vous guider par votre cœur. En ce sens, je rejoins ce que Olivier écrit dans son livre « J'arrête de me juger », rapportant les propos d'Abraham Maslow, psychologue américain et père de l'approche humaniste. Voilà ce qu'il dit. À celui qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous. Ne vous sclérosez pas en ne vous tournant que vers une seule et unique méthode. Restez ouvert à toutes les différentes approches. Cette attitude me paraît être essentielle car vous êtes un être multifacette, avec pour chacune d'elles des besoins spécifiques auxquels il vous faut répondre. Elles ont besoin certaines fois d'être abordées de façon différente, car ce qui convient à l'une ne convient pas à l'autre. Ce qui convient aujourd'hui ne convient pas demain. Qui ne connaît pas Ho Oponopono et le fameux « Désolé, pardon, merci, je t'aime » ou le travail de Byron Katie ou les écrits de Pierre Pradervan, pour ne citer qu'eux. Vous viendrait-il à l'esprit de constituer une recette avec un seul et unique ingrédient, sans rien d'autre? Des courgettes, par exemple, seules, sans épices, sans herbes, sans même un tout petit filet d'huile? Alors si vous m'invitez, je viendrai, mais alors uniquement pour profiter de votre compagnie, en espérant secrètement qu'il y ait une auberge sympathique à côté de chez vous.